Bon, alors bonjour, je vous remercie d'être là. Voilà un endroit en matière très classique. Je ne sais pas trop ce que vous attendez de moi, sauf peut-être parler de ce livre, hein, 100 ans et plus de cinéma fantastique et de science-fiction, qui est sorti donc en novembre 2013, ce qui fait un an et demi à peu près. Donc c'est un livre qui vient que je méditais depuis longtemps, bien entendu, puisque j'ai mis à peu près 10 ans pour l'écrire, hein, 10 ans de travail qui est évidemment pas du travail à plein temps, naturellement, vous l'avez bien compris. Mais il se trouve que depuis toujours, depuis mes années de jeunesse, mes années d'études, j'ai toujours été un passionné de science-fiction. Et puis dès mes années d'études, précisément, j'ai commencé à écrire des critiques comme ça de films que je voyais pour des revues étudiantes, hein, qui est éditée à Grenoble, avec l'Association des étudiants de Grenoble, puisque je suis grenoblois. Et puis après, j'ai continué, j'ai fait divers petits boulots, petits métiers dans les 5-10 premières années de ma vie. Et donc, j'ai continué dans la presse, quoi. Toute ma vie, d'ailleurs encore aujourd'hui, je travaille dans la presse. Je m'étais fait engager comme pigiste au Progrès Dauphinois, hein, l'édition dauphinoise ou grenobloise, si on veut, du Progrès de Lyon. Alors, j'ai commencé par faire des chiens écrasés un peu, puis peu à peu, je me suis spécialisé dans la critique culturelle et particulièrement dans la critique de films. Je faisais plusieurs films par semaine, comme ça. Et puis dans des fanzines, et puis dans fiction. Fiction, j'espère que vous savez ce que c'est. La grande revue de science-fiction 54-90. Donc j'ai fait partie de la rédaction à ces débuts des années 70. Bon, j'ai écrit des critiques de cinéma. Et puis à ce moment-là, ou un peu avant, naissait un premier fanzine déjà titré L'écran fantastique, qui est devenu la grande revue de cinéma fantastique et science-fiction qui existe encore aujourd'hui d'une façon évidemment beaucoup plus luxueuse. C'est la plus vieille revue de France, hein, puisque les premiers numéros imprimés, c'est 73. Et en 2015, elle continue encore plus que jamais. Donc voilà, on peut dire toute mon existence, presque, quoi, hein, depuis mes 20 ans ou 21 ans, j'ai écrit des critiques de science-fiction. Et particulièrement, mais des critiques littéraires, bien sûr, mais aussi des critiques de cinéma, beaucoup. Parce que j'aimais ça, le cinéma, j'aime ça, c'est ma passion depuis toujours, hein. J'allais au cinéma tout gosse. Et à un moment donné, je ne peux pas dire quand, il n'y a pas eu un déclic, je ne me suis pas levé un matin en me disant, ah bah tiens, je vais faire un dictionnaire de cinéma, pas du tout. Mais il n'empêche qu'un jour, je me suis dit, bon, j'ai dans mes tiroirs depuis 30 ans, depuis 40 ans, plein de critiques, je ne vais pas les laisser mourir comme ça serait bête, je vais essayer d'en faire un bouquin. Alors j'ai remué, j'ai brassé toutes mes archives, hein, tout ce que j'avais gardé, parce que jusque dans les années 90, évidemment, ces critiques étaient tapées à la machine mécanique, et j'en avais gardé la trace, les preuves sur les journaux, revues, magazines dans lesquels j'écrivais. Puis après, l'ordinateur est arrivé, donc bon, bah, alors là, on tapait ça sur ordinateur. Donc évidemment, je gardais les dossiers des critiques que je faisais. Donc j'avais un nombre considérable, hein, plusieurs milliers de critiques de films que j'avais fait à mesure que les années passaient, que les décennies passaient, et puis que je voyais des films. Et je me suis dit, donc, ben, encore une fois, je ne vais pas garder ça. Alors j'ai commencé à réunir, à retaper sur informatique toutes les années, toutes les décennies de ces critiques que je retrouvais dans les pages du Progrès, dans les pages de fiction, dans les pages des premiers écrans fantastiques, etc. Quelques autres revues ou journaux aussi. Mais sans savoir la forme que ça prendrait, quoi. Au départ, je pensais simplement faire un livre qui ne regrouperait que des critiques de films, hein, une espèce d'almanach, une espèce de nomenclature de tous les films que j'avais vus, parce qu'il fallait que je les voie, bien sûr. Puis après, je me suis dit, mais c'est un peu bête quand même, je vais faire un véritable dico en faisant des notices sur les principaux réalisateurs un peu spécialisés dans le genre, hein, de Jack Arnold à Stanley Kubrick ou Steven Spielberg. Et après, je me suis dit, bon, je mets des réalisateurs, autant les mettre tous, quoi, autant mettre tous les réalisateurs qui ont, à un moment ou l'autre de leur carrière, fait des films de science-fiction. Puis après, on est passé aux acteurs, puis à partir d'un certain moment, je me suis dit, mais je ne vais pas y arriver, quoi, c'est pas possible. Alors j'ai demandé à quelques collaborateurs, quelques amis et collègues qui écrivaient pour la plupart dans l'écran fantastique, il y en a quatre en tout, il n'y en a pas beaucoup, de m'aider à faire des notices eux-mêmes, soit sur des films que je n'avais pas vus, soit sur des sujets pour lesquels je ne connaissais rien, comme il y a deux très grandes notices qui tiennent plusieurs pages chacune, et sur la musique de film, et sur les affiches de film, deux sujets sur lesquels j'étais incompétent, où je n'avais pas la documentation nécessaire. Donc là, c'est un autre écrivain de science-fiction, cinéphile et critique, Jean-Pierre Fontana, qui m'a beaucoup aidé dans les dernières années de réaction, de rédaction de cet ouvrage, auquel sont ajoutés bon, des genres, des sous-genres, la politique fiction, etc., le gore ou les films catastrophes. Bon. Bref, peu à peu, tout est arrivé je dirais pas à la fin, mais presque à la fin. Et puis, bon, j'ai demandé des conseils ici ou là, bien entendu, pour ne rien oublier. Et puis, il est arrivé un moment où le problème s'est posé, mais qui va éditer ça? Parce que là, j'en avais plus de 1000 pages, hein, 1500 pages, au moins, tapées à la machine. Alors, j'ai fait le tour des éditeurs, j'avais commencé un petit peu avant la fin, bien entendu. Beaucoup, j'ai reçu plusieurs refus d'éditeurs spécialisés dans le cinéma, mais qui néanmoins n'avaient pas envie de publier un tel ouvrage. Et puis est arrivé M. Guy Astic, hein, qui dirige les éditions Rouge Profond, qui doivent avoir 12 ou 13 ans d'existence aujourd'hui, qui m'a dit oui, moi ça m'intéresse. Alors bon, on a correspondu, puis il est venu chez moi, j'ai sorti mes documents, mes pages tapées, on a fait un peu le calcul du nombre de pages que ça prendrait, tout ça. Et il m'a dit bon, ben d'accord, on le fait, je signe. Alors bon, ben, ça j'étais très content. Hein. Là, c'était à peu près un an et quelques avant la parution de l'ouvrage, donc en 2012. Donc j'avais presque terminé. Alors après, bon, ben, il a fallu chercher l'iconographie, hein, mais là, c'est bien évidemment l'éditeur qui est responsable de cette partie-là, avec la mise en page, avec tout ça, même si j'ai suivi de loin, mais enfin, c'est quand même le beau pavé que vous avez devant les yeux. Même si c'est moi qui l'ai écrit, c'est quand même un très beau travail d'édition. Et là, je tiens à rendre hommage à Guy Astic et aux éditions Rouge Profond, qui ont fait vraiment un beau boulot. Mais évidemment, on ne savait pas du tout au départ si ça marcherait, si ça ne marcherait pas. C'était un peu le ping-pong, hein, c'était un peu le pile ou face, quoi. Et puis, il se trouve que donc, le bouquin est sorti avec un peu de retard, hein, malgré tout, en novembre 2013. Et entre novembre 2013, sa sortie, et Noël, le jour de l'an, on a vendu pratiquement tout le premier tirage, qui était de 2500 exemplaires, qui sont vendus en un mois et demi à peu près. Alors donc, comme le bouquin était loin de... comme le nombre d'acheteurs, les achats potentiels étaient loin d'être épuisés, on a fait un deuxième tirage de 2500 exemplaires. Pareil, donc le tirage total de ce livre doit être en gros de 5000 exemplaires ou un tout petit peu moins, et qui continue à se vendre, quoi. Alors bon, pour moi, l'aventure est évidemment pas vraiment terminée, puisque je continue effectivement à voir des films, à en faire la critique, hein, et pour l'écran fantastique, et pour un autre magazine pour lequel je fais des critiques de cinéma à Grenoble, et encore pour une petite revue qui s'appelle le Galaxy Mercury ou Mercury Galaxy, dans lequel je donne effectivement des papiers qui sont souvent les mêmes, hein, je remodèle un petit peu suivant le support. Et alors, est-ce qu'il y aura un deuxième tirage? Est-ce qu'il y aura des ajouts? Est-ce qu'il y aura une édition poche, omnibus, sans illustration? Est-ce qu'il y aura une édition informatique avec téléchargement payant? J'en sais rien. Je ne sais pas. Ça, ce n'est pas moi qui peux décider, c'est l'éditeur. Mais en tout cas, j'espère bien. Et encore une fois, pour moi, cet ouvrage n'est pas terminé. C'est la caractéristique même d'un dictionnaire. Dès l'instant où il est paru, bah hop, tout de suite après, il y a d'autres événements qui se produisent et qui rentreraient tout à fait dans ce dictionnaire. Donc voilà, c'est un étape, c'est un objet qui est solide, costaud, lourd, qui est devant vous. Mais de mon côté, bah, je continue encore une fois à écrire journellement presque, parce qu'il y a bien un ou deux films de science-fiction ou fantastique qui sortent chaque semaine sur nos écrans, donc je les vois tous. Et je continue à en faire des notices qui servent encore une fois pour les médias dans lesquels je travaille, que ce soit un mensuel, un hebdo, etc., et qui iront peut-être un jour dans une suite, quelle que soit sa forme, de ce bouquin, quoi. Voilà. Voilà ce que je peux dire comme présentation. J'ai rien d'autre à ajouter, mais j'attends vos commentaires, questions. Voilà. si vous en avez, bien sûr. Je ne vais pas vous lire le bouquin, ça non, c'est sûr. À moins que quelqu'un me dise, non, mais qu'est-ce que vous avez dit sur tel votre film, tel auteur? Je pourrais faire un effort, peut-être. Ouais.
Comment vous avez fait pour la sélection? Vous avez,
Ah ben la sélection, c'est...
Vous avez travaillé seul ou...
Ben je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas travaillé tout à fait seul parce que j'ai 4 ou 5 collaborateurs qui sont venus à un moment donné, au bout de 4, 5, 6 ans de boulot, je ne me souviens plus exactement, et qui eux-mêmes, effectivement, me donnaient des notices sur les films que je n'avais pas vus, que je ne pouvais pas voir ou que je n'avais pas l'espoir de voir dans un délai suffisant. Et puis, et encore une fois, j'essaye de voir tous les films qui sortent déjà hein, pour en faire la critique. Hebdomadairement ou mensuellement, sans compter les trucs que j'ai pas pu voir, ben, y a les DVD qu'on peut acheter, on peut trouver des films en streaming ou peu importe comment sur son ordinateur favori. Et puis il y a la télé bon, qui repasse souvent et de plus en plus, même j'ai l'impression, de films fantastiques ou de science-fiction dans diverses chaînes payantes où je suis abonné, quoi. Donc je vois à peu près tout. Il y a peut-être, je sais pas, peut-être 10 ou 12 films ou 15 dans la totalité du dictionnaire que j'ai pas vu, mais qui alors là ont été traités par un de mes collaborateurs. Quoi. Et exceptionnellement, il y a peut-être 2, 3, 4, je ne sais pas, films que personne n'a vu, qui sont des films muets forcément, des années 20, 30, et qui sont dans des pays difficiles d'accès filmique en tout cas, comme la Russie par exemple, ou des pays d'Orient ou d'Amérique du Sud. Alors là, comme quand c'était des films qui me semblaient importants, même si aucun d'entre nous ne les avait vus, eh ben, j'essayais de récolter sur des bouquins ce que d'autres qui avaient eu la chance de les voir antérieurement en disaient, puis j'ai fait un petit digeste quoi, pour essayer de rien oublier. Mais je ne crois pas qu'il y ait aucun film, on peut me contredire facilement, très probablement, qu'il n'y ait aucun film important depuis la naissance du cinéma, quoi, depuis Méliès, puisque je parle de plusieurs films de Méliès. Le voyage dans la Lune, le voyage à travers l'impossible, etc. Je ne crois pas qu'il manque grand-chose. Ce qui manque, c'est ce qui sort maintenant, quoi. Ce qui sort depuis l'édition du bouquin, et puis ce qui sort et sortiront dans les semaines, les mois, les années à venir.
Oui, donc il y a des critiques que vous avez écrites il y a plusieurs dizaines d'années.
Oui.
Est-ce que vous avez, en les relisant, est-ce que vous êtes rendu compte que vous avez changé d'avis sur le film? Est-ce qu'il y en a certaines que vous avez réécrites?
J'ai pratiquement tout réécrit, peut-être pas dans le détail de la première à la dernière ligne, mais effectivement, une critique que j'ai écrite il y a 40 ans, je ne pouvais pas la laisser telle quelle, parce que souvent le style même était fondé sur le média dans lequel j'écrivais. Quand on écrit une critique à chaud sur un film qui vient de sortir, 3 ans après ou 30 ans après, on ne peut plus avoir le même style, la même manière de le décrire ou de le critiquer. Mais en fait... Alors d'une part, chaque fois que je pouvais revoir le film, revoir un film que je n'avais jamais revu depuis 20, 30 ans, parfois 40 ans, j'essayais vraiment de le revoir. Et il y en a une grande partie, encore une fois grâce à la télé, puis au DVD notamment, il y en a une grande partie que j'ai pu revoir avant. Donc j'ai pu me rendre compte si j'étais toujours du même avis sur le film en question ou pas. Mais curieusement ou pas, j'en sais rien. J'ai très peu changé d'avis en fait. Je me suis rendu compte en relisant mes écrits de toutes ces années passées et en confrontant avec la vision du film toute récente, hein, qu'il y a très très peu de films sur lesquels j'ai changé d'avis, quoi. Je sais qu'un de mes grands enthousiasmes concernant les films de science-fiction, c'est Planète Interdite par exemple. Est sorti en 56. Je ne dis pas que je ne l'ai jamais revu, parce que c'est un film qui repasse quand même relativement souvent à la télé. Mais aujourd'hui, en 2015, c'est vraiment pour moi un des 10 grands, grands films de science-fiction qui existent, quoi, malgré l'arrivée massive des effets spéciaux. Donc pour celui-là, je n'ai pas changé d'avis. Il y a d'autres films, certains, où l'avis peut être modifié vers le haut, vers le bas, mais assez peu. Quoi. Par exemple, déjà, ça c'est un... Parce que c'est mon avis, hein, c'est pas un dictionnaire comme Larousse où on essaie d'être objectif. D'ailleurs, c'est quoi l'objectivité? C'est un dictionnaire très subjectif, c'est l'avis d'une personne, moi, Jean-Pierre Androvon, sur des films dont un avis que beaucoup de gens ne peuvent pas partager. Et des critiques, j'en ai eu pas mal, quoi. J'aime pas beaucoup Orange Mécanique, par exemple, de Kubrick, qui est considéré comme le grand film de politique fiction ou de spéculative fiction. Moi, je trouve que c'est assez ennuyeux, assez plat, quoi. Et quand je l'ai revu, effectivement, j'ai trouvé encore plus mauvais que dans les années 70. Bref. Mais voilà, quoi, pour répondre vraiment à la question, non, j'ai peu, à 95%, j'ai pas changé d'avis, non. Ce qui veut prouver, je sais pas, je suis toujours le même, ou j'avais l'œil, déjà, quand j'étais tout jeune.
Et c'est quoi le film récent qui vous a le plus marqué, du coup ?
Oh là là, ça c'est difficile à dire, parce qu'ils se ressemblent tous, moi je trouve. Maintenant que l'affût d'images de synthèse et d'effets spéciaux lamine un peu les scénarios, c'est un petit peu difficile quand même. Il y a un film que j'aime beaucoup, que très peu de gens ont vu, qui s'appelle Upside Down. J'ai plus le nom du réalisateur en tête, je crois que c'est un sud-américain, qui est très très bien, une histoire de deux univers parallèles, deux planètes qui se frôlent et on peut voir les gens marcher au plafond, si je puis dire. Mais c'est un film très beau, très poétique. Enfin, ça, c'est vraiment. Dans ma mémoire des deux ou trois dernières années, je pense que c'est un des films que je préfère, d'autant qu'il n'a pas fait une carrière, quoi, à côté de Mad Max ou autre. Voilà. Bon, il y en a. En général, j'aime bien. Hein. Mais plutôt que les films strictement de science-fiction, planétaire, qui a une sérieuse tendance à se répéter, hein. J'aime bien les films tirés des comics, quoi, des Marvel Comics, hein, tous les films de super-héros, que ce soit Marvel, que ce soit oui, venu de Marvel ou des DC Comics, hein, aussi bien Batman et Superman que Spider-Man, ou, etc. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça vient de... C'est une vraie culture populaire, en fait. Hein, ça vient du bouleversement qu'a apporté Stan Lee dans les scénarios de comics, en ne faisant plus seulement des super-héros, ce qu'on appelle les super-héros, des personnages hors du commun, mais en les insérant dans le quotidien américain des années 60, avec tous les problèmes d'argent, de racisme, l'introduction des femmes aussi, par exemple. Il y a de plus en plus de super-héroïnes. Donc et puis je trouve que c'est très bien fait, en plus. Quoi, c'est des films que j'aime. Les Spider-Man de Sam Raimi, c'est vraiment bien, quoi. Les Batman, c'est très bien aussi. Bon, donc je suis assez content. Je prends plus de plaisir souvent qu'aux films de science-fiction qui reviennent, comme Interstellar, par exemple. Je n'ai pas beaucoup aimé parce que je trouve que scientifiquement, déjà, c'est un peu bizarre. Et puis, il n'y a pas, par rapport à d'autres films, on peut revenir à Planète Interdite, d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup, à part les effets spéciaux, il n'y a pas beaucoup d'innovation. Quoi. Oui.
Du cinéma japonais, des mangas.
Ben, les mangas, c'est les mangas. Le cinéma, c'est quand même pas tout à fait pareil.
Oui, mais les animes, alors ?
Ben, les animes, c'est un peu pareil. Je dirais que c'est un peu comme... Bon, il y a quelques films qui se détachent, évidemment. Hein. Je sais plus qu'est-ce que je pourrais vous citer comme titre. Mais ils ont tendance aussi à se ressembler, malgré tout, quoi, avec une débauche d'effets spéciaux, avec des montages accélérés, avec... on peut pas dire que j'ai une grande passion pour les animes, quoi. Mais il y en a des bons, quoi, c'est certain. Mais je dirais que c'est pas ma spécialité. Je me précipite pas voir un anime japonais comme je me précipite, voilà, quoi, pour...
Pour
voir un comics, exactement.
Ouais. Bah, si je voulais,
mais il y en a des bons, moi, je ne dis pas. Mais des récents, j'aurais des difficultés à en citer un. Quoi.
Vous avez fait un dictionnaire exhaustif, vous n'avez pas voulu faire une histoire, une espèce de chronologie de l'histoire du cinéma
Ça existe, hein, y en a quand même. Je sais qu'il y a un bouquin, je ne sais plus qui l'a fait, qui est sorti il n'y a pas si longtemps aux éditions des Cahiers du cinéma. Où il fait une espèce de chronologie, mais c'était pas mon but, quoi. Quand j'ai commencé à faire ce bouquin, je voulais effectivement exploiter les critiques de films, quoi, film par film. Après, j'en ai trouvé la forme, non pas chronologique, effectivement, mais par ordre alphabétique. comme une vraie encyclopédie qu'on feuillette de A à Z. Et voilà, quoi. Donc je laisse à d'autres, mais il y en a quand même. Il y a eu quelques bouquins dans les années 70 essentiellement, et puis il y a ce bouquin que je viens de citer, mais je suis incapable de vous dire l'auteur. Et ça me semblait moins intéressant quand même, parce que une chronologie, oui, mais on fait quoi? On part de 1895, là, ou 16, et puis après on augmente, et puis après le nombre de pays produisant des films de science-fiction, il y en a de plus en plus. Alors on arrive quoi à l'année 92, alors on fait quoi? On prend l'Amérique du Sud, le Brésil, l'Italie, l'Espagne, je ne sais pas. C'est très difficile, c'est un exercice assez artificiel. Est difficile, quoi. Je préfère traiter les grands thèmes, encore que là, les vrais grands thèmes, j'aurais pu faire un chapitre, par exemple, Space Opera, ou un chapitre robot, ou un chapitre voyage dans le temps, mais même ça, c'était pas possible, parce que sous cette simple définition, cette simple compartimentation, il y a des films très, 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 très différents, quoi. Donc j'ai préféré m'en tenir, effectivement. Et puis, comme facilité de lecture, quelqu'un cherche à travers les pages, bon, où est-ce qu'il a parlé des survivants de l'infini? Bon, ben là, on va à SU, et puis on trouve tout de suite, quoi. J'ai préféré ce système.
Oui. Qu'est-ce que vous recherchez quand vous allez voir un film, enfin, pour que vous le considériez comme bon?
C'est mon plaisir personnel, encore une fois. Je veux dire, je me dis pas, ce sujet n'a jamais été traité, donc il est bon, ou bien autre chose, quoi. C'est d'abord un plaisir personnel, et puis quand même, comme je me considère un tout petit peu, avec tous les guillemets que vous voulez, comme historien du cinéma, mais un historien sauvage, quoi, simplement, parce que, encore une fois, ça fait 50 ans ou plus que je vois des films, j'aime bien qu'ils me surprennent, quoi, je veux dire, c'est pour ça que les films actuels, qui sont des ressucés, ou des préquels de préquels, ou à l'invention, quoi, moi j'aime bien les trucs qui, voilà, qui me... C'est pour ça que je reviens à Upside Down. Moi, je n'avais jamais vu ce genre de film, en tout cas exploité comme ça. Sujet à la fois poétique et assez bizarre et presque surréaliste, en fait, même s'il n'y a pas de présupposé scientifique, évidemment. Alors que d'autres, bon, ben, on répète toujours la même chose, quoi. Ne parlons pas de la fantasy, qui est bonne, hein. Je veux dire, la série Les Seigneurs des Anneaux, c'est vraiment de très très bons films, que je vois visuellement avec un grand plaisir, mais qui en fait apporte pas grand chose, quoi. Voilà, on peut relire aussi Les Chevaliers de la Table Ronde, Les Mille et Une Nuits et tout ce qu'on veut, le Kalevala, on aura la même impression, quoi. Mais en fait c'est vrai, je cherche avant tout l'originalité, la manière de traiter un film qui soit intéressant. Un des tout derniers que j'ai vu, c'est Ex Machina d'Alex Garland, c'est un film canadien, d'un jeune réalisateur canadien, et là il y avait effectivement, même si le sujet évidemment n'est pas neuf, dans la perception de l'androïde qui acquiert assez d'intelligence pour se considérer vraiment comme un être humain, et que ses concepteurs et les gens qui l'approchent ne peuvent pas faire autrement de considérer comme il est humain, tellement il est humain. C'est un des bons, oui, j'aurais pu le citer aussi, c'est un des très bons films tout récents, puis en plus il n'y a pas de débauche d'effets spéciaux. Effectivement, j'ai rien contre, hein, quand c'est bien utilisé. Mais là, c'est un film qui m'a bien intéressé, quoi. Ce que j'ai pas trouvé dans Interstellar, je veux pas m'acharner sur Interstellar, mais c'est un film qui a sa cote, quoi. Alors passer dans un trou noir, un trou de verre, revenir par un trou noir, c'est un petit peu bizarre quand même pour moi. Et puis voilà, qu'est-ce que c'est, à la poursuite du futur, non, je sais pas, le dernier là. Hein? À la poursuite de demain, voilà, ça j'ai trouvé vraiment bon. À part la pub gigantesque pour les parcs d'attractions Disney, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Quelques beaux décors et un scénario totalement incompréhensible. Enfin bon.
Et Gravity?
Hein?
Gravity.
Ah oui, ça c'était bien. Mais c'est à peine de la science-fiction, parce que Gravity, bon, c'est comme Apollo 8, quoi, ou Apollo, je sais pas quoi, Apollo 13. Ça arrive, ouais, Apollo 13, ça peut arriver aujourd'hui, quoi. C'est une vision extrêmement précise. Et moi, effectivement, j'aime bien ça. J'ai pas de formation scientifique, pas du tout, mais quand même, en tant qu'auteur de science-fiction, moi, quand j'écris un bouquin de science-fiction, j'essaie que ça se tienne, quoi, que ça soit logique, qu'il n'y ait pas d'énormité, voilà, comme on en trouve dans beaucoup de romans. On va sur Mars, on appelle ça un voyage galactique, par exemple. Bon, donc j'aime que les films aient quand même une base scientifiques ou technologiques, ou les deux d'ailleurs, qui se tiennent, quoi. Et c'est pour ça que souvent, ou alors à l'inverse, je vais me contredire, mais qui ne se contredirait pas, un film comme la série de La Guerre des Étoiles, que j'aime bien, avec quelques différences évidemment, suivant les films et les réalisateurs. Là, bon, peu importe, on sait qu'on est dans une fantasy qui n'est pas de l'héroïque fantasy, mais qu'on est dans une fantasy quand même, où on se fiche, on se contrefiche des distances stellaires et de la vitesse de la lumière et tout ça. Bon, ben là, ça m'est égal qu'il y ait des choses qui ne soient pas crédibles scientifiquement. Mais ce que je reproche à certains films, c'est qu'ils se veulent un peu scientifiques, quoi, comme Interstellar, et où on ne retrouve pas ses billes, quoi. Enfin, voilà. Mais encore une fois, c'est personnel, je ne cherche pas vraiment, là vous me poussez dans mes derniers retranchements, mais bon, je dis ce que je veux, j'écris ce que je veux, quoi. Puis les gens sont contents ou pas, mais c'est pas mon but de contenter tout le monde, quoi. Pas du tout.
Ouais, j'ai l'impression que depuis quelques années, il y a de plus en plus de livres et de films sur la fin du monde et post-fin du monde. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça dit de notre époque?
Ben, ça manifeste une peur de quelque chose qui est très réel, et qui se précipite vers nous, ou nous qui nous précipitons vers la fin du monde avec notre soif d'énergie, notre surpopulation, notre soif de confort et tout. Donc c'est un thème qui n'est pas nouveau, je veux dire, dans la science-fiction, même avant la science-fiction, des fins du monde, il y en a toujours eu, hein. Toujours. L'île de Pâques, par exemple, c'est un exemple que j'aime bien citer, très caractéristique d'une civilisation assez... sur une île assez florissante qui s'est détruite vraiment en quelques décennies, quoi, par la religion. Et puis les Mayas, les Incas, etc., la grande peste, hein, de 1300 et quelques. Donc les fins du monde, que c'est à prendre entre guillemets, parce que le monde finira jamais, mais par contre, une civilisation ou un mode de civilisation, ça ne cesse pas de finir, hein. Bon, l'Empire romain étant un exemple, mais qui est un petit peu... de piéger, parce que l'Empire romain n'a jamais véritablement fini. Mais là, on est arrivé, effectivement, depuis quelques dizaines d'années, avec la prise de conscience de ce qu'on est sur un monde fini. Hein. Le monde fini commence, il a commencé déjà depuis pas mal de temps. Et donc, forcément, la science-fiction se basant toujours sur la réalité, hein, que ce soit les robots, que ce soit l'informatique, que ce soit les voyages interplanétaires ou stellaires, que ce soit la dégradation de l'environnement, les auteurs de livres, hein, déjà, ont toujours traité ça depuis les années 20-30, depuis que la science-fiction, en gros, existe avec son apparition dans les pulps américains. Mais si on lit, par exemple, Le Dernier Homme, hein, qui est un livre de Mary Shelley, vous connaissez, puisque c'est l'auteur de Frankenstein, c'est un livre qui est paru, je crois, 5 ans après Frankenstein, donc en 1820 et quelques, 23, si vous voulez le savoir. De plus érudits que moi le savent, elle décrit Le Dernier Homme vraiment parce que c'est une épidémie de peste qui, au lieu de tuer entre un tiers et la moitié des habitants de l'Europe, comme c'était arrivé au XIVe siècle, ben là, tout le monde y passe. Il y a plus. Donc l'idée de la faim est quelque chose qui est inscrit, je dirais, presque dans notre patrimoine génétique, et puis à mesure qu'on avance effectivement dans le temps, qu'on connaît les choses, que les choses sont chiffrées, hein. Hein, les 10 dernières années, c'est les 9 plus chaudes depuis qu'on... Bon, bref, qu'on fait le calcul des températures. C'est quelque chose qui nous interloque, qui nous interpelle, qui nous fait peur, même si on n'a pas envie d'avoir peur. Donc ça motive les auteurs de science-fiction. Le cinéma, bien entendu, prenant le relais, parce que même si tous les films... évidemment, vous savez, ils ne sont pas tirés de bouquins, il y en a un certain nombre quand même. Et ben voilà, c'est une tendance qui a tendance à grimper, à enfler. C'est un peu comme c'est l'envers, si on veut, de la fantasy, quoi. L'héroïque fantasy, c'est un monde qui n'existe pas, un monde qui est figé dans le temps, quoi, où il peut se passer des tas de choses, mais le monde lui-même n'évolue pas, les civilisations n'évoluent jamais, n'avancent pas, ne sont pas menacés, sauf peut-être dans Game of Thrones, avec l'ère glaciaire qui revient. Mais alors que la fin du monde, les fins du monde, la fin de la civilisation, tout ce qui nous menace, c'est quelque chose qui, d'une part, fait partie, effectivement, de la vie qu'on vit, quoi, de l'évolution de nos sociétés, fait partie de nos fantasmes également. C'est toujours agréable, perversement agréable, si vous voulez, d'imaginer la fin du monde en étant bien entendu persuadé que soi-même, celui qui écrit ou celui qui filme en réchappera, puisqu'il écrit et qu'il filme. Mais ça a toujours été le cas. Un des premiers films, c'était un ou plusieurs des premiers films sur la fin du monde, c'était pas encore pour des causes écologiques, mais c'était pour des causes météoritiques. Il y a la fin du monde d'Abel Gance, bien sûr. Puis après, il y a le choc des mondes de 50, 51, je sais plus, tiré du livre d'Albert de Balmer et Willy, qui datait lui des années 30, donc c'était pas nouveau, quoi. Et puis, mais ça continue encore, parce que les causes possibles ou probables ou crédibles de la fin du monde ou de la fin de l'humanité ou de la fin de la Terre, à mesure que les connaissances scientifiques s'engrangent et se découvrent, ben, il y en a de plus en plus, quoi. L'histoire de la comète, on n'a pas ça toujours à l'esprit quand on se rasant, bien sûr, on ne sait pas qu'une comète va nous tomber sur la tête. Mais bon, il y a eu plusieurs films comme ça, récents encore, qui exploitent le sujet, bien entendu. Et l'écologie a pris peu à peu, mais c'est quand même assez récent. Hein, le premier film, je pense, c'est La mort de l'herbe, tiré du roman de John Christopher, qui date des années 70.
Terre brûlée,
voilà, en français c'est Terre brûlée, merci. J'aurais dû regarder dans le bouquin. Et puis l'ère glaciaire, effectivement, le jour d'après, hein, de Roland Emmerich, effectivement, c'est pas la chaleur, mais c'est la glace qui nous envahit. Et quelques autres, 2012, du même Roland Emmerich. Bon. Et voilà, quoi, ça a tendance à. Encore une fois, les sujets se multiplient en se contredisant, mais peu importe. On n'écrit pas l'histoire du futur de manière logique. On écrit ou on filme, bien entendu, des histoires du futur différentes, quoi. Alors, on pourrait dire, effectivement, qu'il y a les périls comme ça de la destruction de l'environnement, hein, qui montent en puissance. Et des télé, il y a beaucoup plus de... Je ne sais pas si vous regardez beaucoup la télé, mais sur ce sujet, il y a beaucoup plus de téléfilms, souvent très mal foutus, avec des effets spéciaux minables, qui parlent le réveil des volcans, les tornades, les tsunamis, le météore, il y en a des tas... Chaque semaine, en nous, sa télé, on trouve un film comme ça, quoi, sur une des fins possibles de la Terre. Mais les bons films sur le sujet, c'est vrai que malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Le meilleur, c'est probablement Le jour d'après, de Roland Emmerich, réalisateur qui est beaucoup vilipendé en France. Je me demande bien pourquoi. Alors que moi, je le mets très haut dans mon dictionnaire.
C'est suffisant.
J'ai pas compris, pardon.
J'ai dit, il n'y a qu'à voir ces films, c'est suffisant.
Ah, d'accord.
L'opinion définitivement déjà.
Ah, ben voilà, qu'on n'est pas d'accord, comme ça, moi, voilà un contradicteur que je suis ravi d'avoir dans la salle. J'aime beaucoup, bref. Et je pense qu'il y aura de plus en plus, effectivement, de films comme ça sur le sujet, quoi. Et puis, de temps en temps, les films spatiaux, si je mets de côté les grandes sagas comme Star Trek ou La Guerre des Étoiles, qui effectivement sont plutôt, si on veut vraiment les classifier, sont dans le domaine de la fantasy, des histoires de découverte, d'exploration d'une autre planète. Il n'y en a pas beaucoup. Interstellar, c'est un des rares quand même, mais vous allez me prouver le contraire, ces dernières années, tout simplement parce que c'est très difficile, si on veut rester dans un cadre scientifique, dans un cadre crédible, c'est très difficile d'en parler parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas y aller, quoi. Ni demain, ni dans 350 ans. On ne peut pas. Les distances sont trop lointaines. Proxima du Centaure, qui est à 4,3 années-lumière, je crois, de nous, à la vitesse des fusées actuelles, il faudrait 70 000 ans pour y aller. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien, quoi. Donc il faut préserver la Terre ou mourir sur Terre, mais on n'ira pas trouver un refuge sur une autre planète, ça c'est certain.
Dans le monde enfin, là, vous éradiquez quand même toute l'humanité.
Avec un grand plaisir, oui.
Vous pouvez laisser une petite chance quand même de recommencer.
Je crois que la Terre a vécu 5 grandes extinctions, hein, on est dans la 6e là, qui nous touche très directement. Il y a toujours un redémarrage, quoi, forcément. Il faudrait alors que la planète vraiment explose en 1000 morceaux pour qu'il n'y ait pas de futur. Il y a toujours un futur, même si on n'est plus là.
Ou l'effet Vénus.
Ben, c'est sûr, oui. Qui nous guette, c'est peut-être la chose la plus probable, j'en sais rien, mais une des fins du monde crédibles.
Pardon, c'est quoi un effet Vénus ?
C'est l'accélération de l'effet de serre, c'est-à-dire qu'il ne peut plus s'arrêter. À partir d'un certain nombre de degrés en plus de la température moyenne sur Terre, l'effet cumulatif, l'effet boule de neige, ce qui est paradoxal si on parle de la chaleur, ne peut plus s'arrêter. Donc on sait que sur Vénus, il fait 460 degrés, je crois, c'est assez chaud quand même. Plus chaud qu'ici, la Terre pourrait bien arriver à ce stade si on ne s'arrête pas avant.
Comment vous expliquez le succès mondial de Game of Thrones ? Vous analysez comment ?
Ben parce que c'est un succès qui vient du succès, c'est pas tombé du ciel Game of Thrones, hein. C'est un succès qui vient du succès généraliste, général, de la fantasy qui a tout envahi, hein, les bouquins, les bandes dessinées, les jeux vidéo, le cinéma. Ça a été précédé quand même du Tolkien, là, la série des Anneaux, du Hobbit, de Jackson. Et puis voilà, puis là, l'accès à la télé, bon, c'est évidemment plus facile que d'aller au cinéma et payer 12 euros sa place. Donc je pense que c'est un mouvement qui n'est pas un retour en arrière, mais qui est un goût pour s'échapper à la réalité. Moi, je vois le succès de la fantasy, je la vois comme ça, quoi. La réalité est triste, elle est pénible, elle est dangereuse, elle est angoissante. Donc on se réfugie dans cette espèce de non-temps qui ne nous concerne plus, tout en concernant quand même ce qui nous reste de culture dans la tête, parce qu'il y a un petit peu de Renaissance, il y a un petit peu de Moyen-Âge, il y a un petit peu d'Empire romain. Et voilà, quoi. Je pense que si Game of Thrones était un film qui était sorti de Peter Jackson, comme Le Seigneur des Anneaux, il aurait eu autant de succès, hein, plusieurs millions de spectateurs, mais pas des centaines de millions comme la série, puisqu'elle est diffusée dans le monde entier, quoi. Je pense que Martin, quand il a commencé à écrire sa série de romans, il ne pensait pas du tout qu'il aurait un succès comme ça. Ça fait partie de ces mystères aussi. Tout n'est pas explicable, vraiment, avec une règle à calculer. Hein. Il y a plusieurs facteurs qui s'agglomèrent, comme ça, qui s'engrènent, et puis ça arrive à faire un succès, quoi. Mais il faut dire, moi, j'aime beaucoup Game of Thrones, hein, même si mon goût pour la science-fiction, en tout cas en tant qu'auteur, souvent en tant que lecteur, va vers plus de réalisme. Je trouve qu'effectivement, c'est très bien fait. Et là, pour une fois, les effets spéciaux se justifient plus, peut-être pas plus, mais de manière différente que pour une science-fiction spatiale, avec des fusées, des météores et tout ça, quoi. C'est plus quotidien en même temps, parce que c'est très très bien fait, je veux dire. Il n'y a pas de secret. Enfin, si, il y a un secret. Le secret, c'est juste la fabrication qui doit être impeccablement faite, même si on ne comprend pas tout, parce que bon, il y a une multitude de personnages. Ils sont quand même bien cadrés. Il y a l'aspect politique, il y a les aspects drame de succession, de cours, les assassinats, les empoisonnements. Il y a du sexe, pas mal, hein, plus qu'on en trouve d'habitude à la télé. Donc tout ça fait que c'est un succès absolument mérité.
Vous êtes obligé de dire un petit mot sur Christopher Lee, là, aujourd'hui.
Ben, il est mort, oui. Voilà. Il est mort, c'est ce qui nous attend tous. Non, moi, je suis beaucoup plus science-fiction fantastique, hein, c'est vrai. D'ailleurs, même s'il y a des films fantastiques que j'aime bien, et même si c'est une grande partie, ça fait partie de ce genre-là, quoi. Alors, est-ce que la science-fiction dérive du fantastique ou pas ? C'est une branche un peu divergente, quoi. C'est comme l'homme qui est une branche divergente des grands singes, si vous voulez. Mais oui, bah, c'est un grand acteur. Voilà, quoi. Non, j'ai rien à dire, honnêtement. Il a fait beaucoup de navets, il a fait des films qui ont marqué, qui marqueront toujours, hein, notamment à la grande période des Hammer Films, qui était une des très grandes périodes, peut-être la plus grande période du fantastique au cinéma, avec la résurgence de tous les monstres classiques de la Universal, hein, que ce soit Dracula, Frankenstein, le loup-garou, etc., la momie. Et Christopher Lee était l'homme qu'il fallait, the right man in the right place, quoi. Il était là, avec Peter Cushing, bien entendu, hein, c'était les Laurel et Hardy de l'épouvante. Et c'était, voilà, c'était un... Bon, il y en a d'autres. Hein. Bon, on va parler de Boris Karloff, mais lui, il est mort il y a plus longtemps. Mais c'était aussi un genre de cinéma qui a vraiment disparu, quoi, parce que quand on refait ça ne marche plus vraiment, quoi. Il y a un loup-garou récent, hein, qui était pas. On avait l'impression de revoir un film des années 50, quoi, par exemple. J'ai toujours un problème avec le fantastique. Moi, avant, j'étais beaucoup plus sectaire. Je me disais, non, non, le fantastique, c'est fini. C'est maintenant, on doit faire de la science-fiction. Le fantastique dérive de la croyance en une surnature, quoi. C'est-à-dire, le fantastique dérive de croyances religieuses qu'il y a une vie après la mort. Bon. Ce qui engraine sur les zombies, sur les fantômes, hein. Le 95%, 99% du fantastique, c'est quand même les morts qui reviennent d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc si les morts reviennent, c'est qu'ils ont une vie ailleurs. Donc voilà, c'est quelque chose qui procède de la religion. Moi, quand j'étais un jeune gauchiste très remonté dans les années 70, je disais non, non, mais non, fantastique, c'est un surjon. C'est une épine de la religion, je ne veux pas entendre parler de ça. Alors je suis moins fanatique maintenant quand même. Il y a de très beaux films fantastiques. Mais je trouve que c'est vrai que on reste cadré dans quelque chose, quoi. Dracula, c'est toujours Dracula, quoi. Bon, le loup-garou, c'est toujours le loup-garou, quoi. Il apparaît à la pleine lune, et puis
Côté
voilà.
vampire, il y avait
Et
pas mal de
alors
films en...
Frankenstein, c'est déjà un peu différent, parce que Frankenstein est beaucoup plus du côté de la science-fiction que du côté du fantastique, puisque c'est le premier robot, le premier humanoïde, le premier. En artificiel, oui, bien sûr. Donc c'est un petit peu différent. Mais voilà, quoi, le
Il y a aussi
fantastique.
des rationalisations au niveau des vampires.
Oui, mais bien sûr, on peut tout rationaliser. Oui, tout à fait. Ouais. Les zombies, pareil. Moi, j'ai écrit un bouquin sur les zombies, Un horizon de sang. J'ai dit que parce que la Terre était rentrée dans un truc spatial qui s'appelait la nécrosphère. C'est des trucs.
Nécrozone.
La nécrozone, merci. Voilà. Oui, on peut tout justifier, mais les zombies, c'est quand même un peu difficile, quoi. Mais enfin, bon, pourquoi pas, hein. Dracula, les vampires, c'est vrai que c'est déjà un peu plus réaliste, quoi. Quelqu'un qui a un patrimoine génétique différent, qui doit se nourrir de sang et qui, par là, est immortel, puisque son hémoglobine se régénère, oui, pourquoi pas, mais bon, on tourne très vite en rond, quoi. Voilà. Comme moi, j'aime bien être surpris, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure. J'aime bien les choses différentes. C'est pour ça que mes amours se portent plus, mon attention amoureuse se porte plus vers la science-fiction que le fantastique, oui.
Qu'est-ce que vous avez pensé de l'adaptation de Bram Stoker par Francis Ford Coppola?
Oui, ben, j'allais en parler justement parce que elle est très bien, je trouve. Ouais. Il a essayé de rajeunir, effectivement, d'en faire une sorte de western, et puis de plus de l'insérer dans son époque. Quand Dracula rentre dans un cinéma, par exemple, je ne sais pas si c'est un Méliès ou une lumière qui est projetée, mais ça, ouais, ça c'est bien. Il y a des tas de petites incidentes comme ça qui fait que c'est un but. Bon, puis quand un grand metteur en scène s'attaque à quelque sujet que ce soit, c'est difficile qu'il rate, quoi. Le Frankenstein de Kenneth Branagh est très très bien aussi, je trouve. Mais peut-être le Coppola, c'est effectivement, pour moi, pour certains d'entre vous sans doute, la meilleure adaptation fantastique de ces dernières décennies, quoi, parce que il a donné toute son énergie, son originalité de mise en scène, et puis ces petits inserts comme ça de fin du 19e siècle, où le monde change, en fait c'est ça en fait, introduire quelqu'un du passé dans un monde qui est en train de changer, et finalement, fatalement, il n'arrive plus à retrouver ses marques, quoi. Avec l'aspect western, évidemment, la poursuite de la diligence sur le chemin escarpé. Non, c'est un film que j'aime beaucoup, effectivement. Voilà. Si je devais garder un film fantastique, ça serait celui-là, certainement.
Pour vous, il y a beaucoup de films qui ont réussi à transcender le roman d'origine.
Moi, je trouve que tous ces romans d'origine, hein, je vais faire un crime de lèse-majesté, sont assez ennuyeux quand même, je veux dire. Le Frankenstein de Mary Shelley, c'est quand même assez ennuyeux, quoi, il faut dire ce qu'il y a. Quant à Tolkien, le livre me tombait des mains au bout de 30 pages. Alors, bon, alors qu'il y a des gens qui disent, oh, mais Tolkien, ça fait 12 fois que je le relis. Bravo pour eux, ils iront au paradis, certainement. Mais c'est vrai, l'écriture vieillit comme tout, je veux dire, le cinéma vieillit. on voit un film des années 10, on peut beaucoup aimer ça, ça a vieilli par rapport à 2015, quoi. Et le style des romans du 19e, Walpole, enfin on peut citer presque tous les auteurs, ça a beaucoup vieilli parce que c'est beaucoup axé. On n'avait pas ce sens du dialogue qu'on a aujourd'hui, ce sens de découpage qui vient peut-être du cinéma d'ailleurs ou qui vient des feuilletonistes. On n'avait pas ça, quoi. Alors, bon, là, on pourrait engrainer sur les adaptations, effectivement, de romans au cinéma. Ça sera un peu long. L'heure tourne, j'espère, parce que j'ai soif. Maintenant, c'est 3h30, on devrait s'en aller. Mais enfin, bon, on n'est pas pressé, quand même. Oui, il y a de l'eau. Je ne sais plus où j'en étais, vous me faites dire des bêtises. En tant que lecteur, en tant qu'écrivain aussi, c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas assez de films adaptés de romans, parce qu'il y a des romans extraordinaires. Hein. La vedette incontestée étant Stephen King, mais là c'est quand même un cas assez exceptionnel. Matheson, évidemment, a eu beaucoup d'adaptations, mais Dick commence à en avoir pas mal. Souvent, c'est très différent des bouquins qu'il a écrits. Parfois, heureusement, parce que Dick, des fois... Hein, bref, il y a des Dickiens qui vont m'égorger à la fin de la séance. Blade Runner, c'est un des... voilà, on n'en a peut-être pas parlé, mais c'est pour moi un des meilleurs films de science-fiction des 30 dernières années. Et c'est adapté d'une petite série B sans intérêt, quoi, le roman. Alors que Ridley Scott en a fait une œuvre fabuleuse, évidemment.
C'est comme le film Soleil Vert.
Oui, bien sûr. Oh, ben, le livre est pas mal. La nouvelle est très bien. Il faut lire. Voilà. La nouvelle est bien. Le livre, c'est un petit peu. Une
vaseuse dans le film.
Ne parlez pas tous à la fois, s'il vous plaît. C'est moi le maître de séance ici. C'est vrai que souvent. Alors que souvent, les adaptations de romans classiques sont pas bons. La science-fiction a quand même un avantage, que très souvent, il y a de bonnes adaptations. Oui. Alors, je suis très heureux que vous citiez Soleil Vert, parce que voilà encore un film excellent, que j'ai encore revu, mais il y a très peu de temps, parce qu'il m'arrive de le présenter dans des ciné-clubs ou des trucs. C'est vraiment un film qui n'a pas vieilli, qui tient le coup, voilà, quoi. Et qui, en plus, n'est pas du tout basé sur une hypothèse farfelue, quoi. Qu'un jour, on mange de la chair humaine, c'est pas vraiment impossible, quoi.
Un mois après, il n'y a plus d'humanité parce que tout le monde aura été mangé.
Pas toi.
Sauf un, le dernier. Quoi.
Le dernier. Non, c'est une hypothèse dont Harrison est théoricien et l'avait dit le jour de la projection.
Et l'adaptation de Dune.
Pardon.
Et l'adaptation de Dune.
Faites de jeux de rôle.
Bah, c'est pas mal, quoi, quand même. C'est pas le pire des films, quoi. Évidemment, si Jodorowsky avait pu faire son film, ça aurait été certainement très différent, mais bon. Ouais, bah il y a 2001. Mais 2001 n'est pas exactement une adaptation, parce que c'est basé sur une très courte nouvelle de La Sentinelle, de Clark. Et Kubrick ayant tourné son film en même temps que Clark qui fait son roman. Mais ça fait partie. Là, dans mon dictionnaire, si vous ne l'avez pas lu, je dis dans l'introduction. S'il vous plaît, vous êtes devant un conférencier qui aimerait bien pouvoir s'exprimer, là. Vous pourrez parler librement entre vous à la fin de la séance. Mais ça va se terminer parce que dans l'introduction à mon bouquin, je fais des cotations de 0 à 5, comme partout, hein, comme les cahiers du cinéma. Sauf deux films qui sont pour moi le summum du summum. Un fantastique, un science-fiction, à laquelle j'ai mis 6 étoiles. Et beaucoup de gens ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Alors beaucoup ont trouvé quand même 2001 pour ce qui est de la science-fiction. Et pour le fantastique, c'est quoi ?
Moi, je sais.
Ouais, mais tu sais, mais toi, tu sais, mais bon.
C'est King Kong.
Ben voilà. Bah, King Kong, il n'y en a qu'un, quoi, bien sûr. Ouais.
Ouais. Mais en quoi c'est du fantastique ?
C'est du fantastique parce que c'est une île inexistante, quoi, qui ne peut pas exister. Je veux dire, les dinosaures ne peuvent pas exister puisqu'ils ont été anéantis. Voilà. Et d'autre part, King Kong, c'est qui ? C'est quoi ? Il a un papa, il a une maman, une petite sœur, il est quoi? Il est quel sexe il a? C'est une créature mythique qui existe en tant que création ex abrupto, quoi, voilà. C'est pour ça que pour moi, c'est un film fantastique, quoi. Qu'il y a pas... Dès l'instant où on dit que ça... Mais encore une fois, toute définition est soumise à contestation, bien entendu. Je veux dire, n'importe quel film de science-fiction et qui était science-fiction sur le voyage dans le temps, ça n'existe pas, on ne peut pas voyager dans le temps. Alors ça devrait être du fantastique. N'empêche qu'on les classe parmi la science-fiction, donc c'est vrai que tout ça, c'est un peu parlé. Voilà, c'est pour parler tout. Ah, mais tout à fait, tout à fait.
Bon, et King Kong n'est jamais qu'un remake du monde perdu.
Les histoires de monde perdu, encore une fois, ça remonte bien avant le cinéma. C'est un espèce de fantasme de la Terre, au moment, jusqu'au disons, au milieu du 19e siècle, fin du 19e siècle, on pensait que la Terre était encore à découvrir, qu'il y avait encore des choses à découvrir. Il y a des mondes perdus en surface, il y a des mondes perdus sous le sol. Le voyage au centre de la Terre, de Verne, hein, quand même, il ne faut pas l'oublier, bien antérieur au monde perdu de Conan Doyle. Donc chaque époque comme ça suscite effectivement soit ses rêves, soit ses peurs, soit ses thèmes, tout simplement, pour ce qui est du fantastique et de la science-fiction. Donc voilà, on me fait signe qu'il faut arrêter, parce que j'ai un... tant mieux, parce que j'en ai... Voilà, non, mais ça... Yeah.
Total Recall, voilà, une belle adaptation.
Total Recall, oui, c'est bien sûr, oui. Non, mais je pense, oui, bien sûr, oui. Je pense que Dick a eu quand même droit, est un des auteurs qui a eu droit, avec Stephen King, mais dans un genre différent, aux bonnes adaptations. Alors, par exemple, Bradbury, qui a quand même une richesse totale, c'est pas un auteur qui a eu droit à des adaptations faramineuses, à part quand même Fahrenheit 451 de Truffaut, que moi j'aime beaucoup. Beaucoup d'amateurs de science-fiction n'aiment pas, mais moi j'aime beaucoup. Ouais. Allez, une dernière question, là. Bon.
Selon vous, quel film voudriez-vous voir réadapter des films qui auraient par exemple mal vieilli et qui...
Je sais, j'aimerais bien voir Le Choc des mondes, déjà, qui était un projet dont on a beaucoup parlé, Spielberg était dessus, puis Cameron, je crois, après, mais ça ne s'est jamais fait. Mais moi, il y a un auteur, puisqu'on parlait quand même d'auteurs adaptés, de ce fonds extraordinaire que représente toute la littérature de science-fiction. C'est des bouquins de Robert Silverberg, qui est pour moi vraiment un de mes auteurs préférés, quoi, que je place avant Dick, mes excuses. Silverberg a à peu près traité tous les thèmes de la science-fiction, aussi bien de l'aventure spatiale que du voyage dans le temps, que entièrement, une approche, une appréhension du futur, très réaliste, très moderne, poétique en même temps. Hein, et ça, j'aimerais bien. Et c'est un type qui est totalement ignoré par le cinéma. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, il y a Le Château de Lord Valentin qu'on pourrait adapter en fantasy, effectivement, comme Le Seigneur des Anneaux. Mais il a fait d'excellents livres, quoi. Mais il y a notamment les Monades urbaines, que vous connaissez tous, où la Terre est habitée par 40 milliards d'habitants sur des tours gigantesques. Ça fera un film assez extraordinaire. Ou une série, peut-être, une bonne série. Télé, mais bon, pour le moment, Silverberg ne connaît pas, et j'en suis vraiment marié et triste, et voilà, nous allons terminer là-dessus, si vous le voulez bien.
Merci beaucoup.